Ah, le libre accès des chiens guides. Vous savez, le fait qu'ils peuvent nous accompagner partout, en guidant leur maître ou avec leur famille d'accueil comme moi, eh bien si c'est inscrit aujourd'hui dans la loi, bien qu'encore difficile dans certains lieux, ça n'a pas toujours été le cas. C'est grâce à l'Association nationale des maîtres de chiens guides qui défend ce libre accès depuis sa création en 1979. Et l'ANM Chien Guide vient justement de lancer son application mobile à télécharger sur tous les stores où je vous encourage à signaler toute difficulté ou refus d'accès, mais surtout à adhérer gratuitement, que vous soyez maître de chien guide ou pas d'ailleurs. Et merci à l'ANM de soutenir mon podcast Futur Chien Guide. Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles soutenu depuis cette année par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Je m'appelle Estelle, je suis passionnée par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris. Je suis d'ailleurs persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu. En tant qu'amoureux des chiens, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant mais comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées ? Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leurs maîtres et les bouleversements à leur arrivée, ou encore comment agir quand vous croisez un tel binôme. Avant de vous plonger en immersion dans l'univers des chiens guides d'aveugles, laissez-moi vous parler de Hello Jack, une jeune marque de compléments alimentaires efficace et gourmand grâce à leur cure sous forme de friandises. Deux cures sont pour l'instant disponibles pour soutenir et renforcer les articulations ou encore la peau et le pelage. N'hésitez pas à découvrir ces produits sur leur site hellojack.eu grâce au code HELLOFCG20 qui vous offre une réduction de 20% sur votre commande. Et merci à eux de soutenir cet épisode. Pour en revenir à l'épisode de rentrée, je vous propose de plonger en immersion dans une période charnière de l'aventure de Marjolaine et Safran, son futur chien guide de l'école de chien guide de l'Ouest. Après avoir longtemps rêvé d'avoir un chien à la maison, elle s'est lancée dans l'aventure de famille d'accueil avec son mari et ses deux enfants. Ensemble, ils se sont embarqués dans une année de bénévolat auprès de l'école des chiens guides d'aveugles de l'Ouest jusqu'au départ de Safran lors de son entrée en éducation. Et justement, y a-t-il des trucs et astuces, voire des éléments à prendre en compte avant de se lancer dans l'aventure de famille d'accueil pour mieux appréhender la fin de l'aventure ? De l'arrivée de Safran à son entrée en éducation, Marjolaine nous raconte son aventure familiale qui a eu un écho tout particulier auprès de ses enfants. Elle revient plus précisément sur l'entrée en éducation de Safran, un moment fort en émotion comme l'illustrent les vocaux qu'elle m'a transmis à l'approche de cette échéance. Et maintenant, place à l'épisode.
Salut Estelle, c'est Marjolaine. Écoute, je profite d'une petite balade avec Safran entre des réunions, pour partager un petit peu l'étape dans laquelle on est. Donc, alors qu'il marche tranquillement à ma droite, il ne sait pas encore que dans moins d'un mois, il partira à l'école. J'en ai parlé aux enfants qui savent depuis le début qu'il va partir à l'école. C'est un peu lointain pour eux encore. Et puis moi, je me conforte dans l'idée que ça va être un énorme soulagement dans mon agenda de maman et que du coup, je vais pas du tout être triste. Voilà où j'en suis pour l'instant. Allez, à plus.
Bonjour Marjolaine.
Bonjour Estelle.
Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast Futur Chien Guide. Et puis, en plus, tu as joué le jeu de l'immersion, puisqu'on va l'entendre et on l'a déjà entendu. Tu m'as envoyé quelques vocaux pendant l'aventure.
Tout à fait.
Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter ?
Oui, alors du coup, je m'appelle Marjolaine, j'ai 38 ans, j'habite dans la région de Nantes. J'ai un mari et deux enfants et je travaille dans la publicité.
D'accord. Donc, si on se parle aujourd'hui, c'est parce que tu as eu une super aventure avec les chiens guides d'aveugles. Est-ce que tu peux revenir au tout début de cette aventure ? Est-ce que tu connaissais les chiens guides depuis quand et comment ça s'est arrivé dans ta vie ?
Alors, je connaissais les chiens guides comme un citoyen lambda, c'est-à-dire que j'en avais croisé dans la rue. C'est arrivé, j'avais une très très grosse envie de chien, et tout en me disant que c'était pas forcément très cohérent avec mon mode de vie. Et en parallèle de ça, j'ai deux enfants qui sont malvoyants, donc je suis forcément sensible à la cause. Et puis, je me suis souvenu que j'avais eu cette envie de faire famille d'accueil de chien guide, mais il y a bien longtemps. Et j'ai fait coïncider ma grosse envie de chien avec l'envie de faire ce projet plutôt familial. Mmh. Donc, j'en ai d'abord parlé à mon mari pour savoir s'il allait être OK. J'en ai ensuite parlé à mon employeur pour savoir s'il serait OK que je vienne avec un chien au travail. Et en fait, ça s'est fait très, très vite. C'est-à-dire que le projet est né en mai dans ma tête. En juillet, on avait rencontré l'école donc des chiens guides de l'Ouest, qui est à Nantes. Et en fin août, il m'appelait pour nous confier un chien.
D'accord, donc express.
Express. C'est-à-dire qu'il nous avait dit, oh, vous partez sur 6 bons mois d'attente, ça n'arrivera pas tout de suite, etc. Et finalement, on a à peine attendu un mois et donc Safran est arrivé le jour de la rentrée des classes, qui est à peu près le pire jour qu'on puisse envisager pour accueillir un chien quand on a des enfants. Donc ça a été tout de suite assez rock'n'roll.
Et justement, par rapport à cette expérience, tu nous disais, si tu peux nous en dire plus sur les enfants.
Alors du coup, Juliette, elle a presque 9 ans, ouais. 8 ans et demi, et Lucien, il a 5 ans.
Ok.
Je suis sensibilisée parce que, enfin, Juliette, elle a une basse vision, mais a priori, elle n'aura pas besoin d'outils de compensation pour ses déplacements. Et Lucien, lui, a une basse vision encore plus basse que sa sœur. Et là, pour le coup, il est envisagé qu'il essaye la canne blanche l'année prochaine. Mmh. Et très vite, la canne blanche, ça me rend triste, moi, alors que le chien, ça me rend joyeuse. Donc très vite, j'ai pensé qu'un chien, ce serait une super solution pour lui. Et je voulais lui faire découvrir le chien tout court, hein, et l'envers du décor. Quand Safran est arrivé, Lucien était terrorisé. Il posait pas un pied dans le salon.
D'accord.
Il avait hyper peur. Et il a fini meilleur pote avec lui, mais ça a pris du temps et il a fallu que l'éducateur vienne faire à la maison pour déstresser Lucien, donc sortir de son job d'éducateur pour essayer de faire en sorte que ça se passe bien, parce que du coup ça interférait sur les relations avec le chien, enfin c'était pas hyper naturel.
Ouais, d'accord. Donc c'était pas forcément un souhait de sa part ou un projet de sa part par rapport à un futur chien guide qu'il aurait lui. Il est encore assez jeune. Hein.
Ouais, il est trop petit pour avoir ça en tête. C'est plus moi où je me disais. Enfin déjà, s'ils avaient pas été malvoyants, je me serais dit la même chose. Hein.
C'est une super expérience de famille surtout.
Ouais, exactement. Et je trouve qu'en termes d'expérience de famille, même si tout le monde me rétorquait, mais mon Dieu, comment vous allez faire? Ils vont être trop tristes les enfants, etc. Ça va être affreux. Bah en fait, dès le départ, le contrat il est clair. Le chien il vient, il va repartir. Donc ça n'a jamais été notre chien de famille. Donc tout ça était assez clair. Et finalement, les enfants ils s'en sortent presque mieux que les adultes pour oublier le chien. Mais c'était oui plus lui dire ça existe et puis voir comment aussi il réagissait avec les chiens, parce que j'avais été sensibilisée aussi par le reportage brut sur la jeune fille.
Ouais, Bérénice.
Bérénice, voilà, qui avait son petit chien au collège et mm-hmm. J'ai trouvé ça hyper chouette. Et j'ai pas mal de proches qui me l'avaient envoyé, regarde, c'est hyper chouette et tout. Et je me suis dit, faut déjà connaître les chiens, savoir comment ça se passe, avant de se jeter à corps perdu dans quelque chose comme ça. S'il y a 11 ans, mon fils, il veut un chien.
Bah oui.
On verra.
Ouais. Oui, c'est sûr que Bérénice, du coup, que j'ai eu l'occasion d'interviewer dans l'épisode 28, nous avait bien expliqué comment ça avait interagi dans son quotidien de jeune collégienne, du coup, à l'arrivée d'Opium. Mm. Et c'est vrai que le reportage brut qui avait été fait, parce que c'est le 100e chien guide qui a été remis par la Fondation Frédéric Gaillenne, de fait, a pas mal tourné et a pas mal fait réfléchir sur la place d'un chien guide auprès d'un enfant, en fait. Chose qu'on voit un peu moins dans la société, parce qu'il y a moins d'enfants qui sont touchés déjà par la déficience visuelle et aussi... parce que c'est un peu moins courant et qu'il n'y a qu'une seule association qui en remet, comme je le disais, la Fondation Frédéric Gaillenne, auprès des enfants.
Voilà, et puis là, cette année, donc mes enfants sont suivis par un institut qui accompagne les enfants déficients visuels. Pour la première année, ils ont fait une découverte de la Fondation Frédéric Gaillenne, donc ils nous avaient invités, mais nous, comme on connaît quand même assez bien maintenant l'univers des chiens guides, on n'y est pas allé. Et puis Lucien est encore un peu jeune pour qu'on se lance là-dedans, mais moi, ça fait partie des projets. Et du coup, je ne prendrai pas un chien de famille tant que je ne sais pas si lui voudra un chien guide.
Ouais, donc ça fait partie des perspectives et de fait, d'avoir le rôle de famille d'accueil t'a permis et de désensibiliser, de tester un peu le fait d'avoir un chien de famille tout en ayant un lien avec, comme tu dis, l'univers des chiens guides d'aveugles. Et quand Safran est arrivé, donc ce premier jour, un peu rude, cette rentrée, j'imagine.
Ah ouais, terrible, terrible parce que comme je ne connaissais rien, j'avais juste aucune idée du temps que ça allait me prendre. Ne serait-ce que le placement. Et déjà, le placement, le jour de la rentrée, m'a mis complètement dans le rouge en termes d'organisation, parce que Thomas, l'éducateur, est venu aller un bon 2 heures, 2 heures et demie, amener le chien, l'installer à la maison, tout nous expliquer, etc. Et là, j'ai vu ma jauge de charge mentale monter et je me suis dit, oulala, ça va pas être simple. Et effectivement, c'est pas hyper simple. C'est-à-dire que depuis qu'il est parti, je me sens quand même en vacances. J'ai le sentiment d'avoir libéré une immense charge. Donc, cette rentrée était intense, on va dire.
Mais j'imagine que ça a dû vous mettre dans un bon rythme dès septembre, là.
Ah oui.
Ben, coïncider la rentrée des enfants et puis ben, ta rentrée, toi, même si professionnellement, on n'a pas forcément des rythmes de rentrée scolaire, mais quel que soit le métier, et je le disais encore il n'y a pas longtemps avec des collègues, quel que soit le métier, septembre, ben, c'est quand même le retour de pas mal de gens de congé. Et donc, ça crée une rentrée un peu scolaire pour tout le monde aussi, quoi.
Et ce qui s'était passé, c'est donc Thomas, quand on l'avait rencontré, donc l'éducateur, il nous avait dit au départ, vous avez pas assez de temps, c'est pas fait pour vous, vous pouvez pas être famille d'accueil.
D'accord.
En voyant nos modes de vie, en fait, moi, je travaillais 4/5 et mon mari aussi. Et on lui avait dit non, c'est bon, on a du temps. Et il a bien essayé de nous décourager pour voir si on allait être solide derrière, puisque je pense qu'il a assez peu de profils comme nous, de familles qui ont des jeunes enfants, avec du handicap par-dessus le marché. Du coup, forcément, ça prend beaucoup plus de temps et d'énergie. Il a essayé de nous en dissuader.
Ah oui, mais en même temps...
Je pense qu'il veut pas de gens défaillants, il se comprend.
Oui, et puis c'est vrai qu'il mieux vaut prévenir que guérir, et mieux vaut prévenir que de dire finalement, je ne peux pas, je rends le chien quoi pour eux. Je pense que c'est plus simple de bien sensibiliser à l'avance, on dit, bon voilà, c'est quand même une charge, c'est quand même quelque chose, et puis finalement de se dire, bon bah, c'est passé, mais au moins j'avais prévenu quoi.
Oui, c'est ça. Et donc, il avait pas menti. C'est une sacrée charge. On avait un accord avec mon mari, c'est que lui, il était pas contre le projet, mais pas enthousiasmé comme moi. C'est pas a dog person, comme on dit.
Ouais.
Hein. Il est plutôt team chat. Et du coup, c'était moi qui devais avoir... Enfin, lui, il était en backup. Donc c'était moi qui devais me charger du chien. Et ça m'allait très bien aussi, hein, parce que c'était plus moi qui avais envie de cette aventure. Et lui venait en soutien quand moi, je pouvais pas à cause du travail ou ce genre de choses. Donc j'ai pris tout le chien et toute la charge et c'était bien dense.
Ouais, c'est un peu la même chose à la maison hein, de mon côté, c'est plus mon projet, mais quand même on est deux à vivre dans l'appartement, donc c'est plus simple.
Oui, c'est ça, il peut te dépanner quand vraiment t'as des difficultés, bah, moi c'était un peu pareil.
Bon, et alors ces premiers temps avec Safran se passent plutôt très bien, je crois que malgré la charge mentale et la charge organisationnelle, vous trouvez vos marques assez rapidement.
Oui, ça se passe bien, il est facile en fait, on est tombé sur un chien intrinsèquement calme déjà, je pense que c'est un super atout pour un chien guide, très facile sur la propreté aussi.
Ouais. On n'a pas parlé de sa race qui est un peu particulière.
C'est un labradoodle, donc croisement caniche labrador.
Caniche royale, hein, donc grand caniche.
Caniche royale, ouais, grand caniche. Donc très vite, il est devenu franchement balèze. Hein. C'est un gros chien. Et puis, il a fait changer d'avis absolument tous mes collègues sur les caniches entre guillemets, parce qu'au départ, ils étaient là, ouh là là, il va pas être très mignon ce chien, c'est quoi ça et tout. Et en fait, il est tellement sympa et tellement de bons contacts qu'ils sont tous ils l'ont tous adoré.
Il est assez grand, du coup, tu disais en taille, après, il est pas très gros.
Ouais, haut sur pattes.
Ça fait...
Il est quand même assez bien plus gros qu'un labrador.
Ouais.
Et puis après, une bonne tête de caniche, quand même, bien frisée.
Tout noir.
Alors, voilà, tout noir, il a grisonné au fil du temps. Et oui, après, en fonction de son toilettage, il ressemble beaucoup à un caniche, ou plutôt les gens m'interpellaient en me demandant si c'était un briard ou des chiens d'eau portugais ou ce genre de choses. Donc ça peut être très rustique en look ou très distinct. En fonction de la tonte.
Ouais. Tu faisais pas la tonte avec... Enfin, c'est pas toi qui as choisi la tonte, j'imagine. Mais...
Non, la première tonte qui a été faite, j'avoue, j'ai pas reconnu le chien. J'étais un peu traumatisée. C'était une vraie tonte caniche avec le bas des pattes rasé. Et je me suis dit, oulala. Enfin, moi, les caniches, c'est pas trop le genre de chien que je trouve joli. Et il était passé d'un chien complètement poilu, un peu rasta, à ça. J'étais, mais c'est plus la même bête. Je reconnaissais pas, c'était assez... assez rude, et puis après on s'y est fait, et puis ça pousse vite. Donc des débuts assez faciles, même si faut quand même le sortir toutes les 2 heures au départ. Donc c'est tout de suite très prenant. Et le plus dur a été que les enfants comprennent très rapidement qu'ils pouvaient rien faire avec lui.
C'est-à-dire ?
À part des câlins. Bah très vite, ma fille est rentrée de l'école. Je veux jouer avec. Je veux le promener. Alors non, c'est écrit dans le contrat, c'est très clair. Les enfants promènent pas les chiens guides, etc. Ensuite, pour jouer avec, il va falloir être un peu patiente parce que le jeu, ça va arriver plus tard dans son éducation. Donc plutôt, c'est arrivé vers 4 mois. Puis quand il est calme, on va pas le déranger. Voilà, il y a plein de règles à respecter. Hein. Ça n'a rien à voir avec un chien de compagnie. Et du coup, elle a eu un petit genre bof, pas génial.
Pas ouf,
ça l'a un peu découragée, ouais. Ça l'a un peu découragée. Puis après, elle s'y est fait. Et finalement, c'est très bien parce que ça leur apprend à respecter les besoins des animaux.
Oui.
De base, les chiens, ils ont pas toujours envie d'être papouillés, pas toujours envie de jouer, etc. Et il faut respecter son rythme et ses besoins. Donc, c'est plutôt un bon apprentissage.
Oui, ça, pour le coup, c'est vrai qu'il y a des règles qui sont spécifiques chien guide, mais le fait de respecter que le chien, quand il est calme, ne pas forcément venir, etc., à l'embêter, ça, c'est une règle que tu pourras appliquer avec un chien de compagnie classique aussi, hein, parce que...
C'est ça. Et ce que j'ai compris, c'est que ça se joue là, en fait, le chien calme, c'est dans les tout premiers mois. Si on favorise le fait qu'il soit calme, etc., et qu'on va pas l'exciter sans cesse comme on peut faire avec un chiot, bah c'est là que ça se joue, le fait que le chien adulte soit calme derrière. Et c'est là que les gens, je pense, font l'erreur parfois quand ils disent ils ont des zozos complètement agités, c'est que bah, tout petit, ils étaient en train de le solliciter un peu tout le temps. Et donc, ça donne les bonnes bases le jour où on aura un chien de famille ou pas, on verra, mais en tout cas, des bonnes bases sur bah, avoir un chien qui est bien dans ses coussinets, calme, voilà. Derrière devient un chien de compagnie sympa.
C'est un chien sur lequel on a bien respecté les rythmes et notamment le temps calme entre guillemets quand il le prend, de bien lui laisser et de pas revenir se solliciter toutes les deux minutes. En effet, ça c'est quelque chose parmi les enseignements qu'on a au niveau des chiens guides qui sont tout à fait reproductibles et des conseils qui sont aussi pour les autres chiens hors chien d'assistance et chien guide de fait.
Ouais.
Oui, peut-être. Petite déconvenue du côté de Juliette pour le coup, mais au final, je pense que rapidement, ils ont bien compris comment ça pouvait fonctionner.
Oui, la seule difficulté, c'est les objets au sol. Donc, Safran était passionné par le textile,
ouais.
Les chaussettes, les bonnets, les trucs comme ça. Et mes enfants, bah, sont comme tous les enfants, sont bordéliques. Donc, ça, il y a eu un moment où on n'arrivait pas trop à progresser sur ne prends pas les objets, sachant que...
Il y en a partout.
Bah, ouais, il y en avait partout. Et puis, ils pouvaient s'amuser à se mettre juste au bord du tapis du chien avec leur doudou, et donc le chien était là, mais genre j'ai trop envie de le prendre ce doudou, donc ça a été un petit peu difficile. Ils ont pas réussi trop à se réguler. Sur la fin, on a mieux réussi parce qu'on a été plus strict, mais c'était la petite difficulté du bazar ambiant qu'on peut avoir dans une maison quand il y a des petits enfants qui aident pas forcément à apprendre au chien eh ben non, ça tu touches pas parce qu'il y en a partout et que c'est très très tentant.
Oui, du coup, toi, au fur et à mesure, donc, t'as emmené beaucoup Safran au boulot, j'imagine. Tu as fait, du coup, plus toi que ton mari les cours avec l'école des chiens guides de l'Ouest.
C'est ça, en effet. Safran, il est venu au boulot dès qu'il a pu prendre les transports. Et du coup, on lui a fait prendre les transports un peu plus tôt que ce qu'ils font d'habitude, parce que à Nantes, là, le quartier où je travaille, on peut pas se garer. Donc, enfin, je suis à 30 minutes à pied, ce qui est tout à fait réalisable. Mais comme le chien était petit, je pouvais pas envisager de marcher autant de temps. Donc, il a dû arriver au travail. Nous, on l'a eu à 2 mois et demi, et à 3 mois et demi, il a pu prendre les transports et il est venu au travail.
Oui, parce que c'est une histoire de vaccin, hein, tout simplement. C'est une histoire d'immunité, cette prise des transports et puis d'habitude.
Alors ouais, je savais pas trop. En fait, ouais, j'avais le sentiment que c'était plus une question d'étape à franchir dans l'éducation que les vaccins, mais bon, en tout cas, il m'a dit que normalement, il faisait à 4 mois, que là, il avançait un peu pour que ce soit simple pour nous.
Toutes les écoles, toutes les écoles, de toute façon, gèrent un petit peu différemment ce calendrier. Et puis, les remises, tu disais, il est arrivé à 2 mois et quelques, les remises de chiens en famille aussi, selon les écoles, varient. Certaines écoles ont la capacité, la possibilité ou le souhait de remettre plus tard. C'est vraiment individuel.
C'est ça. Et après, là, Safran, c'est un chien qui vient d'un élevage...
extérieur.
Lambda, entre guillemets. Ouais, ouais, voilà. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert, parce que dans ma tête, je pensais que les chiens guides, ils élevaient absolument tous les chiens pour avoir des lignées, etc. Et en fait, non. Et il y a certains élevages qui font très bien leur travail et du coup, qui ont des chiens qui sont tout à fait aptes aussi à être candidats aux chiens guides.
C'est sûr.
Donc très vite, on a travaillé ensemble avec Safran. Il a été très sage, un bon chien de bureau, très calme et patient.
Et pas trop de ronflements.
Pas trop de ronflements, des toutes petites vocalises, mais assez peu. Et ouais, super sympa.
Bon, et cette aventure nous amène un peu jusqu'au printemps où tout s'est bien passé. Le printemps aussi, ça s'est bien passé. Mais comme tu le disais, et c'était l'objet aussi de nos échanges ce printemps, bah voilà, il y a la fin de l'aventure. Tu connais le contrat d'entrée. Vous saviez à peu près à quelle période Safran rentrerait en éducation ou pas du tout?
Alors non, en fait, j'avais juste en tête que le chien, il pouvait rester de... enfin, jusqu'à ses 10 mois, à ses 14 mois, donc j'avais ce créneau en tête, et que, voilà, un jour il me dirait quand est-ce qu'il partirait en éducation. On va dire que vers, je pense, avril-mai, je suis pas très forte en date, mais l'éducateur a commencé à m'en parler, tout en me disant que tout était très incertain sur les dates et que, bah, en fait, ça dépend de l'éducateur ou l'éducatrice qui aura sa franc et du fait qu'ils remettent un chien ou non avant, et la remise dépend de la disponibilité du déficient visuel. Donc, tout ça imbriqué fait que les visibilités sur les dates sont assez mauvaises. Voilà, donc il m'avait dit, je pense, en avril-mai, il m'avait dit, bon, bah, sa franc, il partira en juin. Tout en me disant, bah, ça peut être avant, ça peut être après, mais a priori, l'éducatrice qu'on a sélectionnée pour lui, ce serait aux alentours de juin.
Donc ça te faisait une année scolaire plutôt classique.
Ouais, exactement, une année scolaire, ouais. C'était plutôt pas mal et de toute façon, moi, j'étais un peu au bout de mes capacités en termes d'organisation, c'est-à-dire que pour que ça colle, que ça franc soit bien, je me levais plutôt le matin, je faisais des balades dans la nature avant d'aller au travail. Ça voulait dire que tous les matins, mon mari, il s'occupait tout seul des enfants. Donc ça, c'est bien sur une année, mais au-delà, ça commençait vraiment à être lourd à porter, même si j'ai eu une version de chien ultra simple. Hein. Je pense que c'était vraiment assez simple. Dans notre organisation, j'ai trouvé que c'était lourd. J'attendais le moment où il rentrerait en éducation aussi avec une forme d'impatience, même si je l'aimais beaucoup, parce que je commençais à fatiguer sur l'organisation.
Oui, puis peut-être que l'organisation des vacances d'été n'était pas forcément compatible avec la présence de Saint-Franc. Enfin, je sais pas comment tu avais appréhendé ça.
Dans ma tête, c'était compatible, mais très vite, Thomas, l'éducateur, m'a dit que ça l'était pas parce qu'on part en Corse en avion. Je pensais D'accord. qu'on allait pouvoir le prendre. Et là, à l'école de l'Ouest, ils aiment pas que les chiens prennent l'avion trop tôt. Donc, s'il aurait fallu le placer à ce moment-là en famille relais. Mais sinon, sur le reste de mes vacances, j'aurais pu le prendre assez facilement.
Donc, au mois d'avril, c'est là où on a commencé un peu à échanger ces petits vocaux où voilà, la date se rapproche. Et puis, en plus, il y a des allées et venues en termes de date.
C'est ça.
Ça devient demain, enfin, entre guillemets. Et puis, finalement, c'est plus demain.
Ouais.
Comment ça s'est passé pour toi et pour les enfants aussi? Parce que, de fait, pour le coup, Juliette et Lucien, même s'ils sont pas impliqués autant que toi dans la charge mentale, l'organisation, etc., pour le coup, émotionnellement, sur le moment, ça devait être un peu différent.
Ouais, alors dès que j'ai eu des idées de date, j'ai dit aux enfants, hein, il va partir bientôt, ce sera peut-être au mois de juin, etc.
Lucien, qu'est-ce que tu ressens sur le fait que Saint-Franc il aille à l'école? Qu'est-ce que tu en penses?
J'en pense bien.
T'en penses bien?
Oui.
T'es content?
Moi, c'est Juliette. Et ce que je ressens quand Saint-Franc va partir à l'école, c'est un peu la tristesse, puis la joie.
Pourquoi la joie?
Bah, parce qu'il va devenir chien guide.
Donc, moi, je me préparais au mois de juin. Et puis, j'ai eu un appel de Thomas. Et il me dit, bon, bah, je vous avais dit que sur les délais, il pouvait tout se passer. En fait, il part la semaine prochaine. Enfin, c'était quelque chose de cet ordre-là. Je me rappelle plus exactement. Mais au final, la date, c'était le 17 mai. Donc, c'est venu assez soudainement. Il a dû m'appeler aux alentours du 10 en me disant, bah voilà, il y a une éducatrice. Là, elle va se retrouver sans chien. Et du coup, on fait partir Saint-Franc plus tôt. Elle peut le prendre à partir du 17 mai, etc.
Et puis, donc, je crois qu'il y a eu quelques allers-retours.
Ah oui, et je pensais à une autre chose. Je me rappelle quand j'ai eu Saint-Franc au tout début, j'avais évidemment, comme tout le monde, une envie immense de réussite et je me collais à une pression de folle. Et dès que je faisais quelque chose où ça n'allait pas avec lui, je culpabilisais à fond. Maintenant que j'arrive près du but d'avoir accompli ma mission, puisque c'est ce que je me dis, s'il rentre en éducation, c'est que j'ai quand même un petit peu réussi. Et bah, je me colle plus autant la pression et puis je me dis, je me prépare plutôt à ce qu'il échoue, entre guillemets, et qu'il soit réorienté pour pas être déçu. Parce que je me fais souvent le film dans ma tête de la remise en m'imaginant chialer comme une madeleine. Voilà. Et voilà, je me prépare un peu à la déception.
Parce que dans les vocaux que tu m'as envoyés, il y en a un où tu dis en avril, finalement, il part fin mai, puis après, fin de début mai, ça passe à mi-mai, etc.
Oui.
Et c'est, voilà, c'est un peu déstabilisant à comprendre en tant que famille, et en même temps, sur le fait, c'est qu'on est au service de l'école.
C'est ça, exactement.
Donc c'est un peu l'ambivalence de, c'est un peu court, mais en même temps, bah, je suis là pour vous, mais ça reste un peu court, mais voilà, quoi.
Salut Estelle, écoute, c'est Marjolaine, merci pour ton petit message. Ben, ce week-end, j'étais en famille, mais j'avais pas pu prendre Safran avec moi parce que c'était dans une maison où les chiens n'étaient pas les bienvenus. Donc lui est parti en week-end à la plage aussi, mais dans une autre famille relais. Donc là, je viens de le récupérer. On fait une petite détente tous les deux. Il a pas changé, j'étais contente de le revoir. Donc c'était un relais un peu spécial puisque probablement le dernier. Puis du coup, comme une fois qu'il était parti, je me suis un petit peu projetée sur le moment où il serait plus là du tout. En me disant qu'un chien, ça, c'était quand même une sacrée présence. Voilà, je sais toujours pas à la date exacte à laquelle il va partir. C'est probablement ce qui est de plus compliqué, si on peut dire. C'est pas vraiment compliqué, mais en tout cas, voilà, de pas pouvoir savoir. Je sais que c'est aux alentours de mai, et ça dépend d'une remise du chien qu'avec l'éducateur avant. Donc voilà, donc j'attends la date exacte et en attendant, on fait notre petit train-train. Donc voilà, on fait notre balade du midi. À bientôt.
Oui, enfin, on était tous prêts à ce qu'il parte parce que il nous avait quand même prévenu assez en amont. Donc ça faisait plusieurs semaines qu'on parlait de son départ, etc. Donc il est arrivé un peu rapidement le départ. Hein. On a eu peut-être une semaine pour se dire. Mmh. Et puis là, c'était la semaine. Je pense que c'est ce que je t'avais dit dans les vocaux. C'était la semaine des dernières fois.
Bah là, on fait des dernières fois avec Safran, donc c'était son dernier toiletteur hier. Il a une bonne petite tête de caniche. Et puis, les gens ils commencent à me dire « Ah, quand est-ce qu'il part ?» Et je réponds « En mai, mais je ne sais pas exactement quand. » Et là, tout le monde me parle du moment où je vais pleurer. Moi, j'ai pas l'impression que je vais pleurer, mais en fait, je suis hyper heureuse s'il va à l'école. J'aurai accompli ma mission, donc ça me rend fière. Donc, je ne crois pas... que je vais être particulièrement triste, mais peut-être que je me mets complètement le doigt dans l'œil, hein, vu que c'est ma première fois, je sais pas trop encore. Écoute, j'ai appris hier qu'en fait, il partirait pas avant le 29 mai, parce que bah, je sais pas trop. Donc, moi qui pensais faire toutes mes dernières fois avec Safran il y a pas si longtemps, dernière plage, dernier ci, dernier truc, bon bah on va encore retourner à la plage ce week-end. Voilà, allez, à bientôt, ciao.
Bah écoute, c'est plein de rebondissements hein, ce départ de Safran, puisque il y a quelques jours j'apprenais qu'il restait au moins jusqu'en juin, et hier j'ai appris que finalement il partait beaucoup plus vite que prévu. Donc son départ est pour le 17 mai, donc dans moins de 2 semaines. Voilà, donc à nouveau je re-rentre dans les dernières fois. Alors c'est marrant parce que je m'étais dit bon, il reste un mois, je me remobilise, je me motive à fond pour essayer d'amener Safran au meilleur niveau et de réussir à faire en sorte qu'il soit plus posé émotionnellement quand il rencontre d'autres chiens. Et puis là, à nouveau, je suis en dernière ligne droite, donc je refais des dernières fois. Ça va bien se passer, on est assez confiants. Ce que j'ai trouvé assez rigolo, c'est à quel point le moniteur me prépare en me disant « Vous savez, vous allez plus le revoir du tout !» Il part hein, vraiment définitivement, etc. Je pense qu'il a l'habitude d'avoir des familles qui fondent en larmes. Moi, je ne sais pas trop comment ça va se goupiller. On verra. Si les au revoir ne sont pas trop longs, je ne devrais pas être triste parce que, en fait, c'est ce qui était écrit et du coup, je serais plutôt fière.
Oui. On faisait des derniers trucs. Enfin, voilà. Mais on était tous hyper prêts. Parce que voilà, on avait été prévenus bien en amont. Moi, j'étais en mode rabâchage avec les enfants de « il va partir bientôt, il va partir bientôt ». Je voulais pas qu'il se fasse surprendre.
Écoute, voilà, je suis à J-7 avant le départ de Safran. Donc concrètement, qu'est-ce que ça change? On va pas se mentir. Sur l'éducation, il y a un petit relâchement quand même. On se dit « bon, c'est la fin, allez, on peut se lâcher un petit peu plus ». C'est pas bien, à chaque coup je le fais, je culpabilise. Je relâche pas complètement, mais il y a une partie de moi qui a envie. Et puis surtout, je préviens les gens autour de moi que ça fera en part bientôt. Mes collègues, mes voisins, tout ça, parce que évidemment tout le monde le voit passer, le connaît, voire mes collègues, ils ont fait pas mal de réunions avec lui. Donc dernier mardi, puisqu'il part mardi prochain à 10h. Et puis demain ce sera dernier mercredi, donc à chaque coup... On va dans des environnements différents et je dis ça y est, il s'en va, etc. Donc c'est un au revoir collectif. Et puis côté enfant, je les ai prévenus, mais Mais là, à l'approche du départ, j'en parle plus trop parce que j'ai pas envie d'en faire, de cristalliser trop, de pas faire un au revoir trop solennel parce que je pense que c'est ça qui peut rendre les choses difficiles. Donc, ils savent qu'ils partent, mais voilà, je leur dirai la veille que le lendemain, ils iront à l'école et on va pas en faire des caisses.
Puis, j'ai bien insisté la veille au soir avant qu'ils partent et le matin, de leur dire bah, vous lui faites un dernier câlin parce que là il part à l'école, et je le disais positivement, c'est pas Safran nous quitte, c'est Safran part à l'école, il rentre à l'école des chiens guides, c'est hyper cool. Et du coup...
écoute, c'est le dernier jour de Safran aujourd'hui, du coup ce matin les enfants lui ont dit au revoir avant de partir à l'école. Lucien m'a dit qu'il voulait pas qu'il parte, et puis il m'a aussi demandé si quel genre de copain il aurait à l'école et s'il allait avoir une cantine. Et puis Juliette a fait un timide câlin. Je pense que c'était peut-être un peu plus dur pour elle, mais elle montrait moins. Voilà, mais tout ça était dans l'ordre des choses. Les enfants étaient très prévenus, donc c'était pas particulièrement triste. Et moi, de mon côté, je continue de vivre des dernières fois, triste ou joyeuse. Donc hier, on a dit au revoir aux collègues. Et ce matin, je me suis dit que je ramassais pour la dernière fois une crotte de safran. Ça, c'est plutôt joyeux. Il va en faire d'autres, mais ce sera pas moi qui les ramasserai.
Mon fils, il était là. Est-ce qu'il y a une cantine? Est-ce qu'ils ont des récréations? Comment ça se passe? Donc, c'était positif. Il avait une projection qui était sympathique. Donc, voilà, ça n'a pas été de drame familial au moment de son départ.
Oui, c'est ce que je te demandais, justement. Comment toi, c'était un peu l'objet de l'épisode, de nous raconter un peu ce moment charnière de transition et de départ. Et en plus, tu le disais, et moi, je l'entends tellement souvent aussi à propos de moi, c'est mais c'est horrible, mais il va partir, mais comment vous faites? Mais je pourrais jamais laisser partir un chien. J'avais un peu envie qu'on se penche sur cette période parce que, bah, en même temps, il part en éducation, donc c'est un peu l'objectif, quand même, de la mission.
Salut Estelle, c'est Marjolaine. Bon, j'ai pris un petit temps pour me recomposer parce que malgré toutes mes envies de ne pas pleurer, ben, j'ai pleuré un petit peu. Voilà, ils sont venus tout à l'heure à 10h. Donc ben, voilà, il s'est déroulé que j'ai transmis tout ce que je savais sur Safran. Et voilà, donc il l'a emmené à Angers. Il va rejoindre une nouvelle famille d'accueil pour le week-end. Visiblement, j'aurai quelques nouvelles, j'en attendais pas forcément. Comme mon fils demandait aussi qui seraient ses camarades de classe, elle m'a dit qu'elle m'enverrait la photo des deux chiens, enfin des chiennes en l'occurrence, qui sont en éducation avec elle. Voilà, et puis nous, on le reverra peut-être. On va en septembre aux portes ouvertes de l'école parce qu'on avait très envie de découvrir le guidage avec les enfants. Donc on reverra peut-être à ce moment-là, mais voilà. Petite séquence émotion à la fin, quand ils nous ont dit merci, principalement. C'est pas tant de quitter le chien qui m'émeut que... bah, l'engagement que c'était et la cause derrière.
Bah, c'est ce que je dis aux gens, en fait, c'est ce qui est triste, c'est de pas vivre cette expérience, en fait. C'est ça qui est triste, parce que la plupart du temps, les gens, ils me disaient oh, mais ah non, mais moi, je pourrais pas faire ça, je m'attacherais au chien. Ah, puis après, il s'en va. Alors déjà, le premier truc, c'est s'attacher au chien. Alors moi, je me suis pas retenue, hein. Je suis attachée à Safran, les enfants aussi. Et je pense que c'est une des clés de la réussite de l'éducation. J'avais échangé avec une autre famille d'accueil qui me disait, bah, au départ, elle était très en retenue. Et en fait, bah, elle avait pas créé de lien avec le chien. Enfin, en tout cas, elle se retenait de s'attacher à lui. Et du coup, l'éducation fonctionnait pas. Et donc, ouais, cette expérience, dès le départ, le contrat, il est clair. Nous, l'objectif, c'est qu'il devienne chien guide. C'est pas d'avoir un chien de compagnie à la maison. Donc, le moment où il rentre à l'école, déjà, j'avais hyper peur qu'on n'arrive pas à ce moment-là. Mm-hmm. Parce que j'avais peur qu'on échoue.
Ça peut arriver. C'est pas forcément dépendant de la famille d'accueil, du chien.
Oui, ça peut arriver en termes de santé aussi. Mais c'est vrai que c'est ça, on le relate moins. Mais tout le long de l'éducation, moi, j'avais peur qu'on échoue. J'avais hyper peur. Mais parce que c'est émotionnellement, c'est ce qui est le plus chargé pour moi. C'est-à-dire que, enfin, je voulais qu'on remette un chien guide à un déficient visuel. Mmh. C'était ça mon objectif. C'était vraiment pouvoir aider quelqu'un. Donc, une fois qu'on est arrivé au moment où il est rentré en éducation, bah, je m'approchais de cette réussite. Donc, hyper contente. Et c'est là où j'ai eu plus d'émotions de m'approcher de cette réussite que de quitter le chien. Parce que, bah, le chien, en plus, dès le début, il est habitué à avoir plusieurs référents humains. Mmh. Il n'était pas proche que de moi, il était proche de son éducateur Thomas, il était allé en famille relais, etc. Le chien, lui, il s'y fait mieux que nous. Hein. Mmh. Je pense que si on se revoit, on sera tous les deux contents, mais il s'y fait carrément bien, le chien. Il n'est pas malheureux. Quoi.
C'est vrai que moi, je dis souvent que quand je les ramène de relais, que ce soit d'un week-end, de deux semaines, d'un mois et demi, ils vont à l'école, ils se retournent même pas. C'est un peu comme des enfants,
bah,
des fois.
C'est ça, ouais, c'est ça.
Dans un sens, t'es hyper content parce que tu te dis, bah, s'ils y vont et qu'ils se retournent pas ou qu'ils te regardent, mais à moitié, mais qu'ils sont hyper contents, bah, ça veut dire qu'ils sont bien dans leurs pattes aussi et que voilà, l'école pour eux c'est un lieu avec les copains comme tu dis, alors la récré et tout, bon, oui, on... la cantine, oui aussi on peut envisager, ouais, qu'il y ait tout ça adapté pour eux, mais de fait c'est pas un déchirement pour eux et en effet c'est plus émotionnel pour nous dans ce sens là, même si comme tu dis je suis persuadée que si tu recroises Safran ça va être la fête quoi.
Bah c'est clair. Mais bon voilà, en fait moi j'étais hyper fière qu'il rentre en éducation et du coup j'ai transmis cette idée là aussi à mes enfants de waouh, on a réussi quoi, c'était un sacré challenge et nous on a fait suffisamment bien notre travail pour qu'il rentre en éducation. Après ça veut pas dire qu'il va réussir lui sur la suite, on sait pas. Mais c'était comme ça que l'histoire pour moi était un succès quoi. Mm. Sur le départ, bah ils ont réagi assez différemment. Juliette a un peu plus que ça. Alors je pense que ouais, elle lui a fait un petit câlin et puis finalement elle m'a un peu dit que peut-être qu'elle préférait les chats et qu'elle était pas si triste que ça. Et Lucien, qui était celui qui posait pas un pied par terre quand le chien est arrivé, était aussi celui qui le prenait dans les bras en lui faisant des gros câlins. Et là, il y a eu une petite tristesse. C'est-à-dire qu'il a dit, ouais, Safran, il est parti. Moi, je vais rester enfermé dans ma chambre parce que je suis triste. Et ça a duré une journée.
Oui.
Donc, relativisons la tristesse.
J+1 du départ de Safran. Officiellement, le plus triste d'entre nous, c'est mon fils Lucien, qui vraiment... voilà, il est vraiment triste, m'a dit des larmes dans la voix qu'il voulait que Safran revienne. Et c'est un petit peu difficile pour lui. Et puis, bah moi, ce matin, ça m'a fait bizarre de pas voir la niche et le petit chien à l'intérieur et qu'il soit remplacé par des plantes hein, qui sont pas contentes de me voir. Et puis, bah chaque coup que je traverse une rue, je me dis « Merde, t'es pas dans les clous ». Mais bon, je pense que ça passe au bout de quelques jours. Voilà.
Et je leur donne des nouvelles quand j'en ai.
C'est ça aussi dans les trucs et astuces, c'est ce qui m'intéressait aussi d'échanger avec toi parce que bah il y a la relation adulte. Nous on a la gestion de nos émotions. Alors nous on va pas s'effondrer en plein milieu, enfin a priori, on va pas s'effondrer au travail en disant oh, le chien n'est plus là à côté de moi, mais c'est vrai que vis-à-vis des enfants et je sais que c'est une question aussi qu'on peut me poser bah moi j'ai des enfants, est-ce que ça va pas être traumatisant pour eux, etc. Alors on l'entend bien dans ton témoignage et ça peut arriver différemment dans d'autres familles hein, c'est pas gage de réussite, mais de fait ces petits trucs et astuces de dire bah voilà, on en parle positivement, notre mission elle est là depuis le début et puis bah si on a des nouvelles, on donne des nouvelles et puis on peut le suivre éventuellement derrière en éducation selon ce que l'école donne comme information.
Et puis le truc hyper important je trouve, c'est de leur rappeler que c'est pas notre chien en fait. Mmh. C'est enfin et on fait pas ce qu'on veut avec lui et ça ils l'ont très vite compris et du coup c'est enfin même s'ils avaient de l'affection pour lui, c'était pas notre chien en fait. Je passe mon temps à leur dire c'est pas, il est pas à nous Safran, on le fait pour l'association, etc. Et donc bah quand il part, comme il a jamais été notre chien officiellement, même s'il passait toute sa journée avec nous, bah le contrat il est clair. Donc je pense qu'il faut être super vigilant sur ça. Pas le chien de la famille, voilà, c'est un chien qui a une destinée et notre objectif c'est de l'aider à la remplir. Donc là-dessus, j'ai rabâché vraiment. Je pense que j'ai vraiment cadré auprès de mes enfants pour que je voulais pas qu'ils soient déçus ou qu'ils soient surpris. Voilà. Donc là-dessus, on a été très clair. Et comme on n'avait vraiment pas le droit de faire ce qu'on voulait, enfin eux de leur point de vue, hein, vraiment pas le droit de faire ce qu'ils voulaient avec le chien, bah nécessairement ils comprennent assez facilement quand bah le chien il doit partir et voilà, il a une mission à accomplir. Et... c'est très surmontable hein, sur la tristesse des enfants ou même des adultes. L'expérience en vaut largement la petite tristesse de la fin, quoi.
Même sur la jeunesse du projet, parce que tu nous disais le projet est né au mois de mai dans ta tête. Tout s'est un peu concrétisé à l'été, puis à la rentrée avec l'arrivée de Safran. Du coup, les enfants n'ont pas forcément eu des années entre guillemets où on aurait pu dire bah voilà, on va pouvoir faire ça, mais ce sera pas notre chien, ou des années de porte ouverte, enfin voilà, comme on peut entendre parfois. Et au final, on sent que le projet est vite maturé et de fait, ça a quand même fonctionné.
Oui.
malgré les échanges et l'idée assez récente, c'est ce que tu...
C'est vrai, c'est vrai. Après, on est une famille où on aime bien les animaux. Mais ce qui a été chouette aussi, c'est que ça a été vraiment... je pense dans le métier, on parle d'outils de médiation, mais ça a été vraiment... J'ai acheté les livres que tu avais présentés. Alors, j'ai oublié Drôle de métier de Hatchoum. Et,
oui, le drôle de métier du chien Hatchoum.
Voilà, et La nouvelle vie du chien Hatchoum. Et en fait, ça m'a permis aussi de parler plus avec le chien qui est plus concerné, mais qui n'a pas encore complètement pris conscience de son handicap, de lui parler de son handicap, de parler de la canne, de parler du chien, de parler de plein de choses à travers Safran et d'aller découvrir qu'est-ce que ça veut dire d'être adulte, malvoyant, etc. Donc ça a été vraiment un grand moment de sensibilisation pour la famille, de grandir autour de cette thématique du handicap, et ça a été super aussi. Et de manière très positive, parce que Safran était hyper chouette et du coup, voilà, c'est pas une manière triste de leur amener les choses, c'est regarde, les chiens, c'est trop chouette, les chiens guides, c'est trop mignon, c'est trop sympa, ils sont formidables, et toi, plus grand, tu pourras en avoir un si tu veux, et sinon, tu auras une canne, etc. Ça a permis d'aborder des sujets comme ça qui auraient peut-être été beaucoup plus durs à aborder s'il n'y avait pas eu cette expérience.
Ouais, sans le support de l'aventure en tant que bénévole, du fait.
C'est ça.
Tu l'avais perçu, ça, à ce point-là, avec le recul, que ça allait pouvoir vous aider à parler un petit peu du futur de Lucien, de fait ?
Pas trop, non. Ça faisait partie forcément de l'intérêt du projet. D'ailleurs, mon mari m'aurait pas suivi s'il n'y avait pas ça. C'était de dire, voilà, si ça se trouve, nos enfants auront besoin d'un chien guide. Et du coup, c'est hyper bien de pouvoir, nous... Déjà, on va dire, c'est quand tu as un handicap dans ta famille, tout ce qui peut un peu soulager en disant j'agis, je fais quelque chose, etc., ça fait vachement de bien. Donc nous, côté adulte, on va dire, ça nous a permis d'être dans l'action, et du coup ça permet aussi de surmonter le handicap différemment. Et puis pour les enfants, c'était forcément ouvrir cette possibilité quand même pour eux, mais j'avais pas envisagé que ça nous aiderait à parler spécifiquement du handicap. Et vraiment à un moment charnière où Juliette, c'était pareil, c'était vers 4-5 ans, où ils comprennent que ils voient pas bien et que les autres voient bien. Il y a ce sentiment d'injustice qui apparaît. Puis après, faut être capable de leur parler du futur en tant que parent sans s'effondrer, hein, très classiquement, et en essayant de rendre les choses positives, parce que c'est ce que je dis souvent avec mes enfants, c'est que eux me surprennent systématiquement. C'est-à-dire que on essaye, nous, de jamais être triste par rapport à ça, par rapport à leur handicap. Et je sais qu'ils me surprennent et qu'ils continueront de me surprendre sur leur autonomie dans le futur. Donc ouais, on n'avait pas forcément envisagé que ça nous aidera à en parler, mais ça l'a fait. Et du coup, j'ai même fait avec ma grande une journée. Je voulais amener le chien à l'école pour faire une présentation. Ça s'est fait fin mai. Du coup, Safran était parti, mais on a quand même fait une grande présentation à sa classe. Et c'était hyper chouette aussi pour Juliette de pouvoir expliquer à ses camarades, et puis tous les enfants étaient évidemment à fond, même si le chien n'était pas présent, pour découvrir ça. Donc c'est une super richesse en tout cas.
Ouais, vous avez réussi à transposer ça aussi dans l'univers social des enfants. Et c'est vrai que c'est ce que j'allais te demander, si ça avait aussi infusé du coup dans leur univers d'enfants et pas uniquement familial, mais auprès des camarades et tout. Et ça, je pense
que... carrément.
Carrément, ça, c'est assez inévitable en général quand le chien est à la porte de l'école ou
c'est ça.
À la porte de la classe.
Quand j'allais à l'école chercher Lucien ou Juliette, après Juliette, elle en parlait volontiers. Puis dans le quartier, on est à Nantes, on est dans un quartier assez familial. Moi, très vite, on était identifiés. Les gens viennent te parler, en fait. Donc au départ, je me disais, ah tiens, avec un caniche, je vais être tranquille, personne va se ruer sur moi pour caresser le chien. Bon, alors clairement pas du tout, tout le monde kiffait le chien.
Ça reste un chiot, hein.
Ouais, c'est ça, mais même adulte en fait. Genre, oh, il est trop mignon et tout ça, ouais. Bon, ouais. J'ai trouvé que c'était le plus dur d'envoyer paître. De mon point de vue, c'était ce qu'il y avait de plus difficile. Mais bon, voilà, du coup, tout le quartier connaissait bien le chien.
Et du coup, les éléments à prendre en compte avant de se lancer dans l'aventure de famille d'accueil pour appréhender au mieux la période charnière de la fin de l'aventure et de son entrée en éducation à l'école. Donc, tu nous as parlé de tous ces trucs et astuces de positiver. Est-ce que tu as encore d'autres conseils à donner par rapport à ton expérience ?
Après coup, au niveau des enfants, j'aurais dû les briefer davantage sur... ça va être un effort qui vous est demandé à vous aussi pour vous comporter correctement, parce que quand il est arrivé, Juliette, elle a vraiment été triste, hyper déçue. Je pense qu'elle s'était fait des films au ralenti de moi et le chiot qui jouent, qui font des câlins, etc. Alors que le chien, on lui apprend à rester en place à la maison. Donc, j'aurais probablement plus bordé cette dimension-là.
Pas forcément sur la fin de l'aventure particulièrement, de fait.
Non, sur la fin de l'aventure, j'ai répété tout au long de l'aventure que l'aventure allait s'arrêter. Ouais, il va partir, il va bientôt partir, Safran, il va rentrer à l'école, et puis c'est pas notre chien, et puis il va partir, et puis il va rentrer à l'école. Pour pas qu'il se fasse surprendre. Mais au-delà de ça, ça se fait hyper naturellement. sans difficulté, en tout cas du point de vue des enfants. Limite, les collègues étaient plus tristes que les enfants.
Enfin, les enfants, c'est passé relativement vite, en tout cas de ton point de vue. Je pense que c'est aussi différent selon tous les enfants. Hein. Il n'y a pas un seul comportement.
Bah, ils sont petits aussi, les miens. Je pense que peut-être des enfants un peu plus grands peuvent avoir un peu plus longtemps le spleen du départ du chien. Mais sur des petits enfants, ils ont un espace-temps qui n'est pas tout à fait le même que le nôtre. Et en une semaine, voilà, c'était terminé.
Oui, c'est vrai que du côté des adultes, tout ce que tu avais pris l'habitude, parce que toi, tu l'avais 24-24 ou presque avec toi, donc de fait, les enfants l'avaient moins aussi dans leur quotidien immédiat, et donc toi, toutes les habitudes que tu avais prises d'aller te balader.
Après le départ de Safran mardi, donc ça fait tout juste 2 jours, eh bien figure-toi que je suis au travail et je suis partie me promener toute seule, parce que mine de rien, quand tu passes de 2 heures de promenade par jour environ à zéro, et bah, tu te rends compte à quel point c'est bien pour décharger le stress, s'aérer le neurone, etc. Donc, je me promène, sans chien, mais je me promène. Donc, on verra si cette habitude restera dans ma vie après, ou si elle va s'estomper tout doucement. À suivre.
T'as quand même continué à aller te balader, je sais pas combien de temps, mais...
Alors, ouais, ça s'est assez vite passé, mais en fait, c'est vrai que du coup, j'ai... Avec Safran, on s'est beaucoup promené forcément et j'ai beaucoup marché en écoutant des podcasts. Mmh. Et quand il est parti, je suis passée de... je regardais, j'avais des stats sur mon téléphone, je faisais genre 80 km par mois en balade. Mmh. Avant le chien, je devais en faire une dizaine. Et j'ai senti ce besoin... quand il est parti, je me suis dit, bon, je suis au travail là, c'est chiant, je peux pas aller me promener avec lui. Je vais me promener toute seule. Bon, c'est passé assez rapidement. Mais c'est vrai qu'au départ... Ouais, t'es tout vide, quoi. Alors, le matin, c'était plus confort. C'est genre, waouh, j'ai du temps à moi, c'est trop facile, etc. Mais ouais, pendant une petite semaine, j'avais un Safran fantôme, quoi. Je me promenais toute seule dans la rue.
Tu traversais en dehors des passages piétons.
Alors ça, je pense que c'est... Ouais, alors ça, c'est long à partir, hein, ce truc, hein, de traverser sur des passages piétons. Dès que je sors du passage piéton, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible, faut pas faire ça, c'est vraiment pas bien. Ça, c'est un bon traumatisme d'automatisme que tu prends.
Ouais, c'est un bon exemple. Je pense que le passage piéton, c'est quelque chose que français, on le fait pas forcément tous. Avec le chien, on est obligé de le faire tout le temps. Et quand on n'a pas le chien, on a l'impression d'être en dehors de la loi et de faire des digressions.
C'est ça. C'est ça. Donc là, maintenant, je prends plaisir à sortir du passage piéton. Ouais, une petite semaine de spleen et d'avoir du mal à rechanger mes habitudes dans l'autre sens. Et puis, j'ai eu très vite de ces nouvelles. Mmh. En fait, j'en attendais pas particulièrement. Et donc, son éducatrice, au bout d'une semaine, m'a envoyé des nouvelles et j'étais trop contente d'en avoir. Mmh. Elle dit, il a toutes les qualités pour devenir chien guide, il est curieux, il est concentré, etc. Donc, j'étais trop contente. Et finalement, c'est plus dur d'avoir de ces nouvelles que de pas en avoir.
Ah oui.
Bizarrement, au départ, j'avais une forme de curiosité de, ok, est-ce qu'il a commencé le guidage, etc. Là, c'est plus, ouais, un peu plus de nostalgie. Donc, si je donnais un conseil, en fait, c'est bien de pas avoir de nouvelles.
Ouais.
Pour se détacher du chien.
Safran a récupéré une famille d'accueil de week-end. Oui, parce que à Nantes, il n'y a pas de chenil, donc il passe ses week-ends en famille aussi. C'est toujours sympa d'avoir des nouvelles.
Les dernières photos que j'ai vues, donc il a commencé vraiment l'éducation dans le dur, on va dire, le guidage le 1er juillet. Donc là, il y a des petites photos où il est dans Angers avec son harnais et il y a des obstacles terribles à traverser, des travaux, des trucs comme ça. Et puis, je le vois beaucoup aussi, elle met beaucoup de balades dans la forêt avec les autres chiens, les autres copains.
Et je me demandais s'il y a quelque chose que tu as appris ou découvert justement de cette aventure auprès des chiens guides. Alors, tu nous as déjà dit beaucoup d'éléments qui étaient revenus un peu en effet bonus, mais s'il y en a un que tu devais retenir, auquel tu t'attendais pas du tout avant d'accueillir Safran.
Globalement, on va dire toutes les coulisses, je pensais pas du tout qu'il y avait autant de travail et de professionnels derrière l'éducation d'un chien. Franchement, c'est un tel investissement. Très vite, ils m'ont dit à l'association qu'un chien, c'était de l'ordre de 20 000 euros d'investi, qui se transforme en croquette et en temps humain, d'éducateur, etc. Et je pensais pas que c'était une éducation si rigoureuse, longue aussi. À vrai dire, j'y connaissais rien, hein, par, comme je te disais au début, des chiens guides que j'avais pu croiser dans la rue, mais j'avais aucune idée de comment ça se faisait. Ça, c'est vraiment la grosse découverte de me dire « waouh ». Comme toi, hein, je trouve que le monde des chiens guides est vraiment formidable, que tous les gens qui y travaillent forcément sont des gens qui sont tous très bien, hein, parce qu'ils se dévouent à une cause. Globalement, le chien d'assistance, je trouve ça super. Hein. Donc j'ai regardé plein de reportages sur les petits chiens d'assistance. J'en parle à tout mon entourage en disant, mais tu sais, il y a des chiens pour le diabète, il y a des chiens pour l'épilepsie, les chiens sont formidables.
C'est vrai que les gens ne mesurent pas le potentiel, hein, parce que on est loin d'avoir encore exploré tout le potentiel de ces chiens.
Et... Ouais, par rapport à leur métier, ce que j'avais pas du tout envisagé, c'est que c'est un métier de rencontre, en fait, d'humain aussi, avant d'être un métier de chien, parce que il y a une relation avec le chien, et puis il y a l'éducateur aussi qu'on quitte, entre guillemets, quand le chien part en éducation. Mais c'est vrai que c'est avant tout humain, en fait, des rencontres. Je vois qu'il connaît tous les commerçants du quartier parce qu'il vient faire les exercices des chiens auprès des commerces, etc.
Oui, c'est vrai que dans les épisodes que j'ai fait avec les éducateurs, que ce soit avec Sandrine dans l'épisode 38 ou les premiers, je sais qu'on avait aussi beaucoup discuté avec Thibaut dans l'épisode 12, ou encore j'avais eu Audrey dans l'épisode 31. Et ce qui est intéressant, c'est de parler de ce métier qui n'est pas un métier canin à 100%, comme tu le dis. Il y a beaucoup de relations sociales humaines. Et de fait, il y a beaucoup de gens qui peuvent se retrouver un peu frustrés de se dire, bah en fait, moi, je veux travailler qu'avec des chiens, les humains, que ce soit les déficients visuels, les bénévoles, c'est pas mon truc. Et justement, bah, faut avoir cette compétence.
Bah, oui.
Compétence aussi vers les relations humaines.
T'es quand même d'abord le coach de l'humain qui a le chien en charge que le coach du chien.
Oui.
Leur premier job, c'est d'apprendre à des gens qui n'y connaissent rien à éduquer un chien correctement.
C'est ça. En tout cas, on voit que vous avez absolument embrassé l'aventure en famille. Je me demandais s'il y avait un moment justement où t'avais été bluffée par Safran, qui reste un souvenir marquant pour toi.
C'est la question la plus difficile. On va dire là où il a été bluffant, Safran, c'est par son calme olympien, notamment au travail. Et mes collègues passaient leur temps à me dire « mais pff, j'ai jamais vu un chien aussi calme ». Alors j'ai envie de dire oui, mais c'est parce que je le promenais beaucoup aussi.
Oui.
Et je lui donnais les possibilités par ailleurs de se défouler et d'être calme. Mais c'est surtout ça qui était marquant. Et puis notre dernier voyage à Paris, où on a pris un métro, mais... blindé de chez blindé, et lui, il était là en mode aucun problème. Je me suis dit quand même, ça c'est hyper fort, parce que ça m'a semblé une prouesse.
Ouais.
L'éducateur, il disait souvent qu'il avait cette qualité qui est, il a envie de faire plaisir à son humain, qualité de cœur comme il dit, ce truc qui est un petit peu impalpable chez un chien, et il avait ça, Safran, avec un lien à l'humain absolument incroyable. Un grand cœur de caniche.
Et est-ce que ce grand cœur de caniche t'a permis de faire des rencontres un peu exceptionnelles ?
Alors, la rencontre la plus marquante que j'ai faite, c'était en allant au travail. Je travaillais à côté de l'école des Beaux-Arts. Et il y a une dame qui m'a interpellée. Elle avait un fort accent anglais. Elle m'a dit « Oh, c'est un élève chien guide ». Je lui dis « Oui, oui ». Et elle me dit « Ah, bah ma mère, elle en a depuis plusieurs années. Moi, je travaille aux Beaux-Arts, je suis artiste, etc. » Et en fait, ma mère est sourde et aveugle. Et elle avait réalisé un court-métrage dans son travail d'artiste qui s'appelle « Mommy, you don't wear makeup ». Elle me dit « Bah, donnez-moi votre mail, je vais vous envoyer le court-métrage, c'est super ce que vous faites, etc. etc. » Et du coup, elle m'a envoyé son petit court-métrage où elle raconte l'histoire de sa maman. C'est assez bouleversant. Hein, donc. Et on voit le petit chien qu'elle a dans la vidéo, et c'était une rencontre vraiment inattendue et hyper riche. Et puis, j'en ai eu une deuxième où c'est un monsieur qui était en terrasse et j'allais chez le coiffeur avec le chien. Et il m'a interpellé et il m'a dit « Ah, c'est un chien d'assistance ». On a parlé un tout petit peu. Il me disait qu'il attendait pour sa fille un chien d'assistance, qu'elle était collégienne, etc. Et qu'il trouvait ça super d'accueillir ses chiens, etc. Donc, c'est plutôt des jolies rencontres. Plutôt par des gens qui sont aussi assez sensibles au handicap. Parce que les autres rencontres, c'était plutôt genre « Laissez-moi caresser le chien, il est trop mignon !»
Ça va être dur quand vous allez le rendre.
C'est ça, ça va être dur quand vous allez le rendre. Ou « Qu'est-ce que vous faites au supermarché avec ce chien-là? Vous n'avez pas le droit d'être là. » J'en ai pas eu beaucoup, des rejets, mais j'en ai eu quelques-uns et ça m'a très vite mis en colère.
Ouais, justement, le pire et le meilleur moment que tu as vécu avec Safran
Alors, le pire, franchement, de très loin, c'est le spectacle du Roi Lion. Nous sommes allés à Paris voir le spectacle du Roi Lion. On avait pris tous les rangs à l'avant pour que les enfants puissent voir un petit peu. L'ouvreuse, elle m'a dit « Vous mettez plutôt côté mur, parce qu'il y a du passage dans les allées, ça va faire peur aux chiens, mettez-vous plutôt côté mur. » J'étais côté mur et en fait, j'étais en face d'un énorme caisson de basse.
Ok.
Bah, le Roi Lion, en dessous, il y a un orchestre hein, et quand il se passe des choses, ça fait « Tadam !» avec des gros coups de basse. Et Safran est parti trois rangées derrière. Et du coup, derrière, ça a donné genre oh, « Mon Dieu, il y a un chien !» Et moi, j'étais là avec la laisse qui partait de l'autre côté. J'ai passé un mauvais spectacle, honnêtement, et lui aussi, il était en bad trip total, haletant.
C'était pas le bon endroit dans l'espace.
Non. Bah en fait c'est le son qui l'a fait paniquer. Je pense que si on avait été à un autre endroit, il serait resté posé parce que c'était pas son genre. Mais là, le son avec des gros coups de basse, des gros coups de cuivre, il était vraiment pas bien, le petit chien. Et bah, comme mon fils, il a rapidement été pas bien aussi au bout d'une heure, il avait un peu peur, c'était trop bruyant. On est sortis tous les trois. Les autres sont restés dans le spectacle, mais oui, ça, c'était vraiment dur.
Ouais, du coup, une expérience un peu mitigée, mais de fait, même si peut-être que quelques rangs derrière n'auraient pas été de refus.
Ouais, c'est ça.
Pour avoir un peu moins les histoires de basse. Des fois, on n'anticipe pas forcément tout, ou les gens te disent, bah, placez-vous là, ce sera plus simple, et en fait, c'est
pas forcément... Oui, j'avais pas vu l'enceinte, je m'étais pas posé de questions, et en plus, j'arrivais hyper sereine, parce que je savais qu'il était très en capacité d'être posé et de pas bouger du tout du spectacle. Donc, je m'y attendais pas.
Il y a d'autres élèves chien guide qui l'ont vu, le Roi Lion, et moi, j'ai vu aussi des spectacles avec les chiens, et ça se passe très bien, mais parfois il y a peut-être quelques petites circonstances qui fait qu'on n'a pas tout mesuré.
Enfin, il y avait le son plus les vibrations, et du coup ça devait être c'était
un peu trop.
Et même pour moi, humain, c'était pas du tout agréable. Donc
oui, donc vous êtes retrouvés finalement.
Ouais. Donc on était contents de partir. Après, sur les meilleurs souvenirs, j'ai pas un souvenir en particulier. C'est marrant parce que mes meilleurs souvenirs, c'est un peu les pires. C'est quand je me réveille aux aurores et pour aller le promener en pleine nature avant d'aller au travail. Mmh. Parce qu'après, mon travail est très sédentaire, réunion, etc., etc. J'allais faire le lever du jour dans un parc près de chez moi qui est la Chésine, qui est un grand parc de balade. C'est des moments que je vis pas normalement d'être dehors à cette heure-là.
Ouais.
Franchement, j'étais la seule personne avec un chien à ce moment-là. Il faisait vraiment nuit, je voyais les vélos passer avec les phares, un peu au clair de lune, à écouter les oiseaux, qui est la nature qui se réveille, et ça, c'est des bons souvenirs, ouais. Même si c'était pas très drôle toujours de me lever. Ouais, des moments un peu suspendus, un peu hors du temps, à être avec le chien et pouvoir aussi le laisser en liberté.
Mais je te rejoins, ces moments où tu te dis c'est dur de se lever, c'est dur de sortir, mais bon, une fois que t'es avec le chien dehors, au final tu te dis
c'est
calme, il fait frais, ça t'éveille l'esprit. Moi qui suis pas du tout du matin, pour le coup, bon, le matin c'est quand même ma responsabilité, le soir c'est plutôt monsieur, parce que voilà, on s'organise comme ça entre nous. Mais de fait, des fois aller faire une balade vachement tôt, ça aide vachement aussi à s'éclaircir les idées. Alors de là à le faire tous les matins quand j'ai pas de chien, j'avoue que
c'est marrant, c'est une contrainte qui t'offre du temps pour toi. En tout cas, du temps de cerveau, on va dire. De penser, de clarifier un peu tout ce qu'il y a dans ta tête. Et c'est un peu méditatif. Enfin, moi, je le prenais comme ça. Comme un peu de la méditation. Un vrai temps pour soi, apaisé. Donc, hyper agréable. Moi, c'est vraiment ce que j'ai préféré. Même si, mis bout à bout, ça fait 2 heures dans ta journée comme ça. Et c'est pas toujours des balades dans la nature avec le chien. Parce que les balades, c'est de la détente, comme on dit. Donc, c'est facile. Enfin, c'est facile. On est vigilant, mais c'est facile. Et puis après, les balades en ville, on est carrément concentré, en fait. On n'est pas du tout en train de se détendre.
Donc, oui, c'est sûr. Mais bon, les balades au petit matin, ça me fait penser à Agathe, qui est aussi sur Nantes. Pour le coup, elle est pas dans l'univers des chiens guides, mais que je suis depuis quelques mois, voire quelques années maintenant, qui est promeneuse de chiens à Nantes. Agathe Deleur de la récré. Et c'est vrai que, quand je la vois se lever aux aurores pour éviter les chaleurs avec les chiens, et qu'elle est aux 6h30 dans les grands parcs autour de Nantes, je suis là, et en même temps, elle dit, c'est cool, on est tout seul. Et les chiens profitent, et elle profite
pour
s'éveiller, et elle rentre. C'est 8h et elle a toute sa journée devant elle, quoi. Bon, avec un peu moins de sommeil, mais...
Ouais, et puis les chiens, ils sont détendus, quoi.
C'est ça.
Enfin, commencer après, fallait que ça colle avec mon agenda de maman et de travail. Donc, je le faisais pas tout le temps, mais c'est vrai que c'était un peu ce que j'avais de plus simple pour être sûre de lui donner de la nature. Sinon, je le faisais entre midi et 2. Enfin, j'arrive à bricoler ou parfois je m'enfuyais de mon travail en plein après-midi parce que j'avais besoin de
faire une pause.
Exactement. Certains prennent un café, d'autres vont promener le chien.
Mais moi, c'est ce que je dis tout le temps. Hein. Quand j'ai des relais, au final, certains vont fumer en bas. Moi, je fais juste un tour de quartier avec le chien et ça dégourdit les pattes à tout le monde. Et on est plus frais parfois aussi pour revenir derrière sur le travail. Hein.
Et j'ai aussi, dans mes meilleurs souvenirs, je pense, c'est d'aller au travail avec un chien. C'est clair que ça, je pense que j'ai réalisé un rêve de petite fille à ce moment-là. J'ai trouvé ça génial. Tous mes collègues ont trouvé ça plutôt chouette. D'ailleurs, derrière, mon entreprise a décidé de donner la possibilité aux gens de venir avec leur animal de compagnie.
Génial.
Tellement il a fait bonne figure. Alors après, il faut passer derrière Safran, hein, parce que ultra calme et tout. Mes collègues, elles sont là, non, mais on croit pas qu'on peut ramener notre chien parce que franchement, il est pas sage du tout. Il est agité. Donc il faut un chien qui perturbe pas l'entreprise. Donc c'est pas si simple. Mais j'ai adoré l'amener au travail. En réunion client, hyper chouette. J'ai fini le dernier jour où je l'ai emmené en réunion. Je travaillais pour l'aéroport de Nantes. J'avais demandé la permission et je trouve ça trop chouette de pouvoir venir avec dans des réunions de travail un peu importantes, un peu gardées. On arrive avec un petit chien. C'est des bons moments, des bons souvenirs.
Bon, on voit en tout cas que l'aventure et la fin de l'aventure n'a pas été traumatisante sur le moyen terme, on va dire. Sur le
non.
Court terme, voilà, la journée et la semaine d'après, tout le monde est un peu émotionné, comme on pourrait dire.
Exactement.
Mais de fait, c'est quand même une bonne aventure, je crois, une belle aventure.
Ah, c'est sûr. Ouais, ouais, je referais sans hésiter. Enfin, la même, hein, à l'identique. Après, je me suis dit, je referais volontiers quand, bah, peut-être j'aurai un autre rythme de travail ou des enfants plus grands. Enfin, c'est vraiment, j'ai eu un coup de cœur, moi, pour les chiens guides. Je trouve ça formidable. Je suis plein de gens, du coup, là, tous les gens de tes podcasts, généralement, je finis par les suivre sur Instagram. Donc, j'ai écouté tes podcasts, j'ai regardé des reportages. Enfin, je trouve que le monde des chiens d'assistance est vraiment incroyable. Et donc, j'aimerais bien, quand le temps me le permettra davantage, donner de mon temps à cette cause-là. Mmh. Je continue d'être en lien avec les chiens guides de l'Ouest. Je leur ai dit que j'étais OK pour faire des relais.
Ouais.
Donc, continuer d'avoir des petits chiens de temps en temps. Donc, c'est bien. Je pense que si un chien a peur des enfants, il vient chez moi derrière. Il repart formé à bloc avec des enfants qui sautent, qui crient et qui font des gros câlins. Donc, si c'est un chien vraiment peureux des enfants, faudra faire attention quand même. Et puis, là, en septembre, je vais aux journées portes ouvertes. J'ai noté la date pour l'école d'Angers.
Fin septembre.
Et j'ai bon espoir d'y croiser Safran, peut-être pas. Et là, j'ai envie que mes enfants ils puissent expérimenter le guidage.
Mmh.
Parce que finalement, ça, ils n'ont pas vu. C'est la seule étape qu'ils n'ont pas vue, de voir un chien avec un harnais guider quelqu'un ou eux-mêmes de se faire guider pour voir ce que ça représente.
Mmh.
Donc ça, c'est la suite des explorations pour nous. Et bah ouais, dans quelques années, je pense que je recommencerai. Je me suis même dit, oh, je pourrais être éducatrice canin, ça serait trop bien et tout ça. Passion chien.
Bah écoute, on te souhaite en tout cas une bonne continuation à toi, aux enfants.
Merci.
Et puis bah merci de t'être confié et de nous avoir un peu raconté cette période charnière de l'entrée en éducation à l'occasion de cette rentrée de septembre du coup,
ouais.
Qui conclut un petit peu un cycle. Je pense que ça fait aussi, c'est toujours intéressant les épisodes, ça permet aussi de faire un petit bilan entre guillemets et de se raconter un peu tout ce qu'on a vécu dans cette belle aventure de pour ta part de bénévole en tant que famille d'accueil.
Mm.
Et bah je te souhaite que du positif et on a hâte de
merci.
Voir aussi les enfants évoluer et puis que tu nous racontes un petit peu leurs projets également.
Ouais, on verra dans quelques années puis j'espère que Safran continuera son aventure et sera un jour remis à une personne déficiente visuelle.
Ouais, bah on le souhaite en tout cas. Et à très bientôt.
À bientôt, merci.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Marjolaine de s'être prêtée au jeu des vocaux pour nous confier cette plongée dans l'aboutissement de l'aventure de famille d'accueil. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver sur futureshinguide.fr des photos de Marjolaine et Safran, mais aussi des enfants, et très bientôt, la transcription intégrale de cet épisode. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur Instagram ou Facebook, c'est toujours un plaisir de savoir ce que vous avez appris à l'écoute de ces épisodes. Alors à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.